Radio Kapi.
À la présentation du journal Billy Van Lutumba.
Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, insiste pour la mise en œuvre de la récente résolution 2773 sous sa facette du respect de l'intégrité territoriale de la RDC et la fin de l'offensive de M23. C'est parmi ce que l'on peut retenir de ses premières heures de visite en RDC où il séjourne depuis ce jeudi. Vous en savez plus tout de suite en attendant de ce journal. C'est quoi la vie des habitants de la ville de Goma ce jour? Un mois depuis que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda contrôlent cette zone. Dans ce journal, nous vous proposons une description succincte de la situation dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. En tout cas, il nous revient que l'économie locale est gravement affectée. Safia Ibrahim, coordonnatrice de l'AFD. Agence française de développement intervient en fond de ce journal comme invitée. Elle donne le bilan du protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusive, évalué à plus ou moins 558 millions d'euros pour la période allant de 2021 à 2024 entre son agence et le gouvernement congolais. Radio Kapi, toujours à votre service de l'information, sous peu. Découvrons tous ensemble les autres contours de l'actualité congolaise à travers les différentes provinces. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Fidèles auditeurs de Radio Kapi, bonsoir. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce jeudi à Kinshasa. Accompagné d'une délégation de la MONUSCO, il a rencontré la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, entourée des membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre chargé de la défense, Guy Kabombo, et la ministre d'État chargée des affaires étrangères, Thérèse Kayikomba-Wagner. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, ainsi que sur les efforts diplomatiques et politiques en cours visant à obtenir une cessation immédiate des hostilités au nord et au sud Kivu. M. Lacroix a plaidé pour la mise en œuvre de la résolution 2773 de 2025, notamment en ce qui concerne le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et la fin de l'offensive du M23. Les propos de Jean-Pierre Lacroix dans cet extrait choisi par Emmanuel Elamejua Kabedi.
Nous avons fait le point sur les efforts en cours et pour arriver le plus rapidement des progrès sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de l'expression de soutien à la MONUSCO, visant à ce que la MONUSCO soit mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Et vous savez qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de restrictions et d'entraves, notamment dans la zone occupée par le M23, avec la présence, comme vous le savez, des forces du Rwanda. Donc, tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. La MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devrait être fait, que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi, le respect du cessez-le-feu.
Nous allons à présent nous rendre dans la partie est de la RDC pour voir quelle est la situation aujourd'hui. Un meeting populaire organisé par le M23 ce mercredi 27 février à Bukavu a tourné au drame. Un engin explosif lancé dans la foule a causé plusieurs morts et blessés selon des témoins. Ce drame survenu à la place de l'indépendance a entraîné une vague de réactions dont celle de la présidence de la République. Ronelly Timbonera nous en parle.
Alors que la ville de Bukavu est sous les chocs, le président de la République, Félix Tshisekedi, dont les propos ont été rapportés sur la page X de la présidence, s'est dit peiné par ces drames survenus lors de ces meetings qu'il qualifie de forcés de la part de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est l'occasion pour le chef de l'État de condamner cet acte et de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'État exprime sa solidarité avec les victimes. Il présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et leur exprime toute sa compassion. Le président Tshisekedi condamne fermement cet acte terroriste et odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais, peut-on lire sur les comptes Twitter de la présidence. Via toujours les réseaux sociaux X, l'un des responsables de la rébellion refuse de porter la responsabilité de ces drames. Il indique que cette situation est la conséquence des menaces proféré hier soir via les réseaux sociaux. Il précise que ces gestes n'avaient pour but que l'élimination directe de son coordonnateur. Cette explosion survient à moins de 48 heures du meurtre d'un homme armé supposé faire partie de la rébellion du M23. Celui-ci a été tué mardi soir par de jeunes en colère près du quartier Essence dans la ville de Bukavu. Il lui était reproché d'être auteur de l'insécurité, un acte qui s'est accompagné par des représailles ayant coûté la vie à 3 personnes, indiquent nos sources à Bukavu.
Autre situation dans le sud Kivu, cette fois-ci dans une autre zone. Les déplacés de Kalehe et Kabare Nord qui avaient fui la guerre vers l'île d'Idjui commencent à regagner leur village. Ils ont levé l'option de rentrer chez eux suite aux conditions difficiles à Idjui où ils viennent de passer quelques semaines sans assistance. Nous retrouvons une fois de plus Ronelly Timbonera pour d'autres détails.
Il s'agit d'un retour progressif et volontaire des déplacés après plus de 2 semaines de vie difficile menée dans le territoire insulaire d'Idjui. Les déplacés ont commencé à regagner leur milieu d'origine depuis une semaine. Les organisations de la société civile d'Idjui estiment leur nombre à plus de 2000 personnes. Le retour progressif s'est fait au moyen des embarcations motorisées. Les associations locales s'inquiètent et recommandent aux retournés d'éviter la surcharge dans les embarcations afin d'éviter les accidents. La plupart rentrent dans le groupe Mbinga Nord et Sud dans les territoires des Kalehe, tandis que d'autres sont des habitants des Katana au nord du territoire des Kabari. Tous avaient fui les affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FRDC associés au Wazalendo.
Nous allons quitter la province du Sud Kivu pour voir à présent comment se passe la vie dans le Nord Kivu. Cette fois-ci, c'est à Goma. Un mois s'est écoulé depuis que la ville de Goma est tombée aux mains des rebelles du M23 AFC. C'était le 27 janvier 2025 à l'issue d'intenses combats qui ont plongé la population dans l'incertitude et la peur. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Blaise Shindani nous fait un état des lieux de la situation.
Goma, siège des institutions provinciales, reste sous occupation rebelle. Une administration parallèle y a été mise en place avec la nomination d'un gouverneur, d'un maire et de nouveaux responsables des services de sécurité et de renseignement. Désormais, c'est cette structure de facto qui contrôle la gestion de la ville. Dès les premiers jours de l'occupation, des centaines de familles ont fui Goma vers les pays voisins Rwanda, Ouganda et Burundi, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans différentes provinces du pays. Par ailleurs, la majorité des sites des déplacés ont été démantelés, obligeant leurs occupants à regagner leur village d'origine, parfois en dépit de l'insécurité. Un mois après, la vie reprend timidement, mais au ralenti. L'économie locale est gravement affectée, l'argent circule peu, les banques et les institutions financières restent fermées et les échanges commerciaux sont perturbés. Cette situation fragilise davantage le pouvoir d'achat des habitants et aggrave la précarité. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux continuent d'accueillir un grand nombre de blessés de guerre. Les organisations humanitaires alertent sur les risques imminents de rupture des stocks de médicaments en raison des difficultés d'approvisionnement. En matière d'activité scolaire, les écoles ont réouvert il y a 2 semaines, mais les cours restent perturbés. Côté transport, certains axes routiers sont de nouveau praticables et le trafic lacustre entre Goma et Bukavu a repris. Cependant, l'aéroport de Goma demeure fermé, isolant encore plus la ville. Face à cette situation, les habitants de Goma vivent dans une incertitude persistante, sans perspective claire quant à l'évolution de la crise.
Comme vous venez de le découvrir, Sud Kivu, Bukavu, Kalehe et Goma, c'est une situation incertaine. Voyons maintenant sur le plan humanitaire ce qui se passe en RDC. 2,54 milliards de dollars, c'est l'enveloppe nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays pour cette année. C'est ce qui ressort du plan de réponse humanitaire 2025 lancé ce jeudi à Kinshasa par le gouvernement congolais et la communauté humanitaire. Cette enveloppe va permettre d'assister 11 millions de personnes, dont 7,8 millions des déplacés internes parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples. Le point avec Rosalie Zawadi.
Cette année, la réponse humanitaire vise à satisfaire les besoins les plus urgents. Les plans prévoient, par exemple, de prendre en charge 1,5 million d'enfants souffrant des malnutrition aiguës, de garantir l'accès à l'eau potable pour 5 millions de personnes et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et l'mpox. Cependant, tous les signaux d'alerte sont au rouge, alerte Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. Dans un contexte marqué par des violences extrêmes, la protection des civils et des plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, restera une priorité absolue dans toutes les interventions. Cependant, la forte diminution des contributions met en péril l'aide humanitaire. L'année dernière, selon OCHA, le plan de réponse humanitaire a été financé à hauteur de 51%, ce qui a permis à 7,1 millions de personnes de bénéficier d'une assistance humanitaire. Toujours en 2024, ce sont les États-Unis qui ont couvert 70% du financement du plan de réponse humanitaire en RDC.
Nous allons nous rendre maintenant dans la partie sud-est de la RDC. Les étudiants de Lubumbashi sont appelés à cultiver l'esprit patriotique dans leur vécu quotidien. L'appel est du commandant de la 22e région militaire. Le général de brigade Eddy Kapend l'a fait savoir ce mercredi au cours d'une série de conférences qu'il a animées portant sur le patriotisme et la citoyenneté. À l'ISP Lubumbashi, il a indiqué que la science et la lumière de la société et tout ce qui la compose doivent vivre en harmonie. Pour sceller les relations civile ou militaire, il a demandé pardon pour le mauvais comportement de certains soldats qui sont sous son commandement vis-à-vis de la population civile. D'autres détails avec Jean Anduka Bongo.
Le commandant de la 22e région militaire a indiqué qu'il a choisi ce milieu pour éveiller la conscience du personnel enseignant et des étudiants. D'après lui, les jeunes étudiants sont souvent manipulés par des personnes mal intentionnées pour assouvir leur soif. Pour cela, ils doivent être éveillés pour barrer la route à tous ceux qui tenteraient de le faire. Il a par la suite demandé aux professeurs et aux étudiants de bannir le tribalisme et toutes sortes de séparatisme. À la place, ils doivent cultiver l'amour de la patrie tout en sachant qu'en tant que citoyens, ils ont le droit et les obligations, notamment le droit de jouir de la protection et de tout ce qui concourt à leur bien-être et d'exercer leurs droits dans le respect des lois du pays. Cependant, en tant que citoyens, ils ont l'obligation d'aimer le pays et de le défendre, de ne jamais le trahir en collaborant avec l'ennemi, surtout pendant ce temps où le pays est en guerre. Pour le général Eddy Kapend, les relations civilo-militaires doivent être entretenues et le civil ne doit pas considérer un soldat comme un bourreau, mais plutôt comme un protecteur, un frère. Et le civil ne doit pas être vu par les soldats comme une proie, car le militaire est l'émanation de la société civile et il y retournera après le travail sous le drapeau. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous remontons à présent dans la partie nord-est de la RDC en Ituri. Au moins 20 personnes sont tuées depuis mardi par les rebelles des ADF qui ont fait incursion dans une dizaine de villages dans la chefferie de Babila Bakwanza, dans le territoire de Mambasa. Selon la nouvelle société civile congolaise, c'est la première attaque de ces rebelles depuis le début de cette année dans cette entité après une accalmie d'environ 3 mois. L'administrateur du territoire de Mambasa indique que l'armée est à la poursuite de l'ennemi, comme nous le dit Martial Kizabiamungu.
Les rebelles des ADF ont d'abord attaqué mardi les villages de Pessa, Kadika, Mekanya, Bawenzi, Bendenge et Leta. Le lendemain, un autre groupe de ces rebelles a fait incursion au village de Kredi, Badou, Balisoma, Mikingi, Samboko et Matolo, situés le long de la rivière Ituri. La nouvelle société civile congolaise de Mambasa indique que ces rebelles ont tué au moins 20 personnes et une vingtaine d'autres sont prises en otage, dont des enfants. Son coordonnateur, Jean-Sué Paloukou, qui cite le chef du village Matolo, indique que la recherche d'autres corps se poursuit à la brousse.
Nous recommandons au gouvernement congolais ici de relancer encore les opérations conjointes UPDF-FARDC dans la traque des rebelles ADF Nalo en territoire de Mambasa. Parce que l'ennemi semble revenir avec une agressivité encore farouche.
L'administrateur du territoire de Mambasa ne confirme pas à ce stade ce bilan. Jean-Baptiste Mouyapandi indique que l'armée est depuis hier à la poursuite de l'ennemi. Ces attaques ont occasionné les déplacements des populations vers des milieux plus sécurisés. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, le ministère de l'économie nationale rassure les propriétaires des véhicules et autres engins que les craintes des pénuries de carburant à la pompe dans la ville de Kinshasa sont totalement infondées. Ce communiqué permet de les rassurer alors qu'ils s'inquiétaient à la suite des longues files d'attente observées hier devant les stations. Les files d'attente observées dans les stations-service se justifient par le fait que les livraisons du carburant par la société d'exploitation pétrolière CEP ont été retardées au cours des journées de lundi 24 et mardi 25 février en raison d'une soudaine intensification des embouteillages aux carrefours les plus fréquentés de la capitale. D'autres détails avec Blaise Makassi.
Selon le ministère de l'économie nationale, depuis la baisse de prix à la pompe, la demande des produits pétroliers a fortement augmenté. Ainsi, la demande des stations-service approvisionnées par CEP est passée d'une moyenne de 1500 m3 à 4500 m3 par jour, soit le triple du volume antérieur. Pour la seule journée du 26 février, le total de mises en place par CEP s'élevait à 4800 m3. Le ministère a reçu des assurances de CEP que les mises en place des produits pétroliers dans les stations services ont été intensifiés pendant les rotations des nuits. Le ministère de l'économie nationale tient à rassurer la population qu'il n'y a aucun problème de stock ni risque de pénurie. Les services du ministère surveillent jour après jour la situation de l'approvisionnement en produits stratégiques afin d'épargner les Congolais des conséquences économiques et sociales de la guerre d'agression, conclut le communiqué.
Actualité internationale.
Sanctionné par les États-Unis pour son positionnement vis-à-vis d'Israël, Pretoria souhaite conclure un accord. L'Afrique du Sud, dont les aides américaines ont été coupées par un décret présidentiel de Donald Trump, veut aller aux États-Unis pour résoudre des différends sur le conflit à Gaza et la politique frontière de son pays. Dans ce décret, Trump reproche à l'Afrique du Sud un traitement injuste des Afrikaners, descendants des premiers colons, à travers sa nouvelle loi sur l'expropriation. Washington cite également le positionnement du pays vis-à-vis d'Israël, visé par une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'objectif à long terme était de se rendre à Washington pour établir des relations qui pourraient porter sur des questions commerciales, diplomatiques et politiques.
L'invité.
Nous recevons ce jour comme invité Safia Ibrahim, elle est coordinatrice en RDC de l'AFD, Agence française de développement. Dans un entretien avec Radio Okapi, elle revient sur les grandes lignes de l'appui de cette agence gouvernement au gouvernement congolais dans le cadre du protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusive évalué à plus ou moins 558 millions d'euros pour la période allant de 2021-2024. Safia Ibrahim, coordinatrice de l'Agence française de développement. Suivez.
Madame Safia Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous évaluez les actions de l'AFD en République démocratique du Congo. Pouvons-nous savoir les grands axes dans lesquels vous intervenez en tant qu'AFD en RDC?
L'agence française est l'opérateur pivot de l'État français ici en RDC. On est un bailleur. On apporte de l'expertise, on apporte du financement, on apporte un savoir technique et financier pour appuyer, contribuer au développement national de la RDC. Donc, c'est pas nos priorités, c'est les priorités du gouvernement. En fin 2021, on a signé un protocole dans lequel la France, via le groupe AFD, s'engageait à mobiliser 500 millions sur 4 ans pour appuyer les secteurs prioritaires du plan national de développement du pays.
Notamment
l'agriculture, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de dire que on a tenu nos engagements. On s'est engagé à 500 millions. On a largement dépassé. On est aujourd'hui à près de 560 millions. Et dans ce 560 millions, vous retrouverez les projets octroyés en œuvre. Donc ils vont délivrer d'ici quelques années, d'autres très rapidement d'ici cette année. C'est le cas du projet santé d'ici à la fin de l'été.
Avant d'entrer dans les différents secteurs dans lesquels vous intervenez, d'où provient les financements que l'AFD apporte pour ces différentes interventions en RDC?
Depuis que la RDC a signé un accord avec le FMI et donc est engagée dans cet agenda de réforme, l'AFD a la possibilité de faire des prêts préconcessionnels presque zéro, à la RDC, comme la Banque mondiale ou la BAD. Donc c'est l'argent de contribuables congolais. Quand vous faites du prêt, c'est le pays, parce que le pays rembourse, et je dois le dire.
Et à quel taux de remboursement?
À de taux presque zéro, parce que c'est des prêts très concessionnels. Et ce que je peux dire, c'est que la RDC est un pays qui rembourse. Pour l'AFD, la RDC n'a jamais manqué depuis qu'on a repris nos prêts ou même l'instrument, ce qu'on appelle les contrats de désendettement. Aujourd'hui, à date, jamais la RDC n'a manqué un seul moment, une seule dette. Sur le 560 qu'on a octroyé, il y a un peu plus de la moitié qui sont dedans. Dedans qui viennent de l'Union européenne, parce que nous gérons des fonds pour l'Union européenne, pour investir dans la gouvernance financière, pour le partenariat mondial de l'éducation, pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Nous gérons de dons qui viennent de CAFI, le fonds vert, et l'argent de contribuables français, de l'argent congolais, de l'argent français, de l'argent européen et de l'argent international.
Et quels sont les grands succès de tous ces projets dans lesquels vous êtes intervenu, que vous pouvez considérer vraiment comme des réels succès?
Aujourd'hui, c'était l'occasion de faire le bilan de ces 4 ans. Mais je peux vous dire qu'en 4 ans, les projets dont je suis fière, parce que nos équipes, les équipes du ministère de la Santé également, de Congolais, ont bien travaillé. On avait mobilisé une entreprise française, on avait mobilisé des ONG congolaises, des ONG françaises. C'est le centre de santé de maternité de Kinshasa. C'est un projet qui me touche particulièrement. C'est un projet qui permet de montrer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter de l'excellence pour les plus vulnérables. C'est pas à vous que je vais apprendre le quartier Changou, Chine populaire. C'est un des quartiers les plus vulnérables de la province de Kinshasa. C'est un des quartiers où vous avez un taux de pauvreté qui est très élevé. Et pourtant, c'est là où vous trouvez le centre de santé de maternité avec des équipements de standard le plus haut niveau. C'est 3000 accouchements et depuis qu'on a réhabilité, qu'on a rénové, qu'on a équipé, formé personnel, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés de la province, il n'y a pas de la mortalité constatée alors que c'était un taux qui était très élevé de taux de mortalité à l'accouchement.
On a abordé beaucoup plus des aspects succès, une illustration des succès, mais où est-ce qu'il y a des grains de sable dans l'engrenage dans ce que vous faites?
Le système se bloque quand notre partenaire pense que c'est à l'AFD de faire.
Le gouvernement donc.
Notre partenaire sectoriel, parce qu'ils avaient deux ministères qui marchent. Nous, notre premier ministère sur lequel on adore, moi j'adore le ministère des Finances. Les ministères sectoriels, pour nous, c'est là où on impacte. Donc, quand nous avons un ministre, une administration qui comprend que c'est à eux de faire et que nous sommes à leur côté, que nous apportons de financement, il n'y a pas. Mais quand ça s'inverse et on dit « Ah, j'attends que le bailleur fasse », c'est là où il y a des grains de sable. Parce que c'est pas un bailleur qui fait. Un bailleur apporte une expertise, apporte de financement, ou finance une expertise, mais il ne le fait jamais à la place du bénéficiaire. Il ne le fait jamais à la place, pardon, de la maîtrise d'ouvrage.
Safia Ibrahim, disons merci.
Mais je vous remercie vraiment, je vous remercie.
À vous, auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal qui se termine par là.